Michele Borghi, je suis une féministe, transféministe, géographe, maître de conférences à la Sorbonne et une activiste porno académique. With my girls, with my girls with the jet black. With my girls with the purple hair. Whip it everywhere. Whip it everywhere. Et alors, j'avais envie de reparler avec toi parce que j'ai lu ton ouvrage « Décolonialité et privilèges ». Et dans cet ouvrage, tu racontes que dans tes recherches, tu as élaboré une sorte d'inventaire, là je lis, un recueil d'actions militantes qui avait pour dénominateur commun l'usage performatif du corps dans l'espace public. Et tu parles de tactical frivolity. Et en fait, je découvrais complètement l'existence de ça. Moi, je t'avais raconté, j'avais fait mes recherches sur ce que j'appelais les actions furtives.
Oui.
Et qui sont des actions dans l'espace public sans spectateur. Et je me disais qu'il y avait peut-être des liens. Et je voulais que tu nous racontes un petit peu plus qu'est-ce que sont ces tactical frivolity et qu'est-ce que tu as pu rencontrer comme type d'action lors de ces recherches-là.
Alors, en réalité, moi, j'ai commencé d'abord ce que j'appelais l'inventaire. Et après, j'ai rencontré la tactical frivolity comme méthodologie, en fait. Parce que la chose a commencé parce que j'avais lu des petits bouquins qui sortaient en France, désobéir à, et c'était les différents désobéir. Et donc, je me disais, tiens, ce sont des bouquins intéressants, mais après, ils me laissent quand même un petit vide concernant des véritables pratiques à reproduire. Et donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être un manque, au moins dans mon imaginaire, d'exemples, quasi de modèles, parce que j'avais besoin, en fait, d'avoir des modèles de référence lorsque, de fait, tu vives ta vie avec des modèles qui sont qui tu intériorises sans même pas te rendre compte qu'ils sont des modèles, qui deviennent des injonctions et que tu n'es pas vraiment consciente parce qu'ils sont naturalisés. Et donc, je me suis dit, bon, tiens, moi, j'ai envie de chercher quelque chose parce que j'ai tout déconstruit, en fait. On m'a appris à déconstruire tout, mais je n'ai pas encore bien compris comment on va reconstruire quelque part. Et donc, j'ai commencé à chercher à droite à gauche des actions à l'époque, je l'appelais la rupture de l'ordre, de tout l'ordre, en fait, en particulier dans l'espace public. C'était 2010 et j'avais connu un petit groupe de personnes à une école d'été féministe. Et là, je venais de déménager à Rome. Je connaissais personne, mais la plupart de ces filles-là étaient à Rome. Donc, je leur ai dit, bon, écoutez, est-ce que vous avez envie qu'on réfléchisse ensemble pour chercher et faire des petites fiches? À l'époque, j'étais un peu encore avec la méthode taxonomique, on va dire, qui me rassurait. Mais bon, voilà, des fiches qui nous permettaient de recenser des actions des actions de rupture de l'ordre. Et moi, ce que j'avais envie de trouver étaient des actions qui utilisaient le corps de façon performative. Donc, des actions qui allaient quelque part utiliser le corps et aussi utiliser une partie ironique quelque part pour le faire. Et moi, ce que j'étais intéressée étaient les actions qui n'étaient pas faites forcément par des artistes, c'est-à-dire moi, je n'étais pas intéressée à le but artistique de la chose, mais à le but de dissidence, quelque part. Et qui n'était bien sûr pas programmé, pas autorisé. Et puis, bon, de là, ça a commencé. Après, le groupe n'a pas trop marché. Peut-être que aussi la méthode, ça n'allait pas trop. Mais moi, j'ai continué à m'intéresser à ça. Et du coup, je suis tombée sur énormément d'actions différentes, un peu partout dans le monde. Et je les cherchais un peu sur Internet, mais aussi avec le bouche à oreille. Et en plus, c'était l'époque où commençaient les happenings en Italie, des mouvements militants contre la précarité. Donc, il y avait un mouvement, une vague de mouvements dans les rues des jeunes contre la précarité du travail, etc., et la précarité à l'université, et donc le terme de happening et de action performative commençait à ressortir. Et puis de là, j'ai rencontré à peu près à la même époque le post-porn à travers le film mi-sexualidad est une création artistique. Et c'est de là que je me suis planchée là-dessus parce que je le trouvais vraiment, j'ai trouvé ce que j'ai cherché quelque part, des actions faites avec le corps, de façon performative, non faites par des artistes, mais pas forcément dans un but artistique, pas autorisées et faites de façon dissidente. Après, pour moi, c'était assez fort parce que moi, je le voyais un peu comme la concrétisation corporelle de la théorie queer. Et je me suis rendu compte que la base de ce type d'action était aussi, si tu veux, la façon, j'étais en train de dire paradigme, mais je ne suis pas sûre que c'est bon terme, la façon de s'organiser anarchiste, donc du « do it yourself ». Quelque part. Et c'est de là que j'ai connu la tactique frivolité parce que beaucoup de cette personne-là était aussi dans le mouvement anticapitaliste. Et donc, j'ai découvert la tactique frivolité comme une façon d'affronter la police par les mouvements no global du début des années 2000. Et c'était en particulier grâce à Slavina, qui avait fait des actions de tactical frivolity et participé à le documentaire sur la tactical frivolity que après j'ai utilisé pour mes recherches et qui est aussi décrit dans le livre.
Et ça consiste en quoi concrètement, par exemple?
Bah, ça consiste dans le fait de surprendre, si tu veux, la police, c'est-à-dire affronter la police, mais en abandonnant quelque part pour certaines actions. L'affrontement direct, c'est la, on va dire,
Black Bloc,
des mouvements altermondistes, etc., pour passer à une méthode de, si tu veux, surprendre la police, la mettre en difficulté à travers le fait que tu fais rien d'autre que danser devant ou lui offrir des biscuits plutôt que faire des choses qui renvoient plutôt à l'ironie, plutôt à le foutage de gueule quelque part, plutôt à le fait de poser ton corps d'une façon qu'on n'attend pas. Et c'était une façon quelque part qui renvoyait un peu à la non-violence, mais dans un espace qui s'est créé au croisement avec les façons de militer plutôt queer, justement dans certaines actions de tactical frivolity, la couleur est le rose, le pink, non? Donc voilà, il y a plusieurs codes et plusieurs contextes, codes, je dirais plutôt, des différents mouvements qui se mélangent, en fait. Et après, bon, il y a toute une tradition aussi, moi, je ne sais pas si je pourrais le définir de la tactical frivolity, mais et toutes les traditions de la danse dans la rue, dans les manifs, plutôt les orchestres, etc., qui utilisent aussi la musique comme une façon de s'exprimer contre l'adversaire, en fait. Et dans ce cas, l'adversaire est la police.
Tu crois qu'il y a des outils qui seraient des outils artistiques qui sont utilisés dans ce cadre-là? Oh, tu oui, crois qu'il y a des allers-retours?
Tout à fait, oui. Certains sont faits de façon consciente parce que souvent sont faits par des personnes qui ont aussi des formations ou d'un activisme, des pratiques ou des flirts, hein, comme le mien, avec le contexte artistique. Donc, soit on apprend à travers le fait de fréquenter des personnes qui ont affaire ou qui utilisent, qui maîtrisent les codes artistiques, soit pour des autres, c'est des véritables déclinaisons dans la militance de ce qu'ils apprennent dans les milieux artistiques. Pour des autres encore, il n'y a pas de grande différence. Peut-être pas forcément dans les manifs, mais après, dans des petites, justement, performances dans l'espace public et tout, sont faites de façon... comme sont construites les performances artistiques. Si je pense par exemple au post-porn, il y a une performance Bon, on veut l'appeler performance, ou on veut l'appeler action directe. Là, ce n'était pas forcément de la tactical frivolity parce qu'il n'y avait pas affrontement direct. Mais c'était une action, par exemple, qui est devenue très célèbre dans le milieu transféministe en Italie et en France, qui était faite par une collective, c'est-à-dire que souvent les personnes du post-porn se mettaient ensemble. Donc, il y avait le collectif tel, tel et tel, et après faisaient des actions collective à plusieurs. Donc il y en a une célèbre qui a été faite dans le cadre d'un festival artistique dans le cours de l'Université de Valencia par certaines post-porneuses qui étaient aussi étudiants en art là-bas et qui avaient fait cet festival en accord avec leur prof. Donc quelque part c'était... mais bon, c'était hyper hardcore parce que c'était une masturbation collective dans le jardin, dans la cour, en fait, de l'université, au pied de la bibliothèque. Et bon, bien sûr, la sécurité est arrivée, mais la chose très sympa que tu vois dans leur vidéo, c'est que le policier arrive, mais la seule chose qu'ils peuvent leur dire est « c'est interdit de filmer à l'intérieur ». La deuxième que je te raconte, m'a été racontée. Celle-là, je ne l'ai pas vue, moi. Mais là encore, c'est vraiment la performance mythique. Hein. Pendant un des premiers voyages de Diana Pornoterroriste en Italie, à Rome, avec les personnes de Idea de Strangmuros qui étaient à Valencia, mais qui étaient d'origine italienne. Donc, elles ont fait tout ensemble une entrée, on va dire, au Vatican, dans l'église du Vatican, et elles ont mis un petit enregistreur derrière une des grandes statues de la Vierge qu'il y a dedans. Et puis, avec un minuteur, et pendant qu'elles sortaient, l'enregistreur il s'est mis en marche. Et c'était des sons de jouissance. Donc, oui. Du coup, la Vierge a commencé à jouir à l'intérieur de la basilique, donc tu peux imaginer. Bien sûr, l'action n'est durée que un minute, je crois, parce qu'a été tout de suite, l'ont retrouvé immédiatement. Mais bon, elles sont arrivées, je pense aussi à filmer, parce qu'elles m'avaient raconté qu'un groupe était déjà dehors, donc ils pouvaient filmer, etc. Et tout. Mais la chose intéressante, c'est qu'elles avaient utilisé pour cette action leur base collective du jour avant. D'accord. Donc, elles s'étaient enregistrées pendant qu'elles avaient fait une pertouse entre copines. D'accord. Et après, ils avaient utilisé ça comme matériel pour faire l'action.
Il y a l'extase de Sainte Thérèse déjà, tu sais, dans le Vatican. Tu vois cette sculpture où elle jouit complètement, en fait.
Ah oui, voilà. Ben, je ne sais pas si elle avait fait sur elle. Franchement, je ne sais pas te dire, mais peut-être aussi hein, qu'elles ont utilisé aussi ça.
J'ai l'impression que la différence, peut-être, c'est que avec les formes artistiques, c'est qu'on cherche tout le temps à mettre en avant un individu. Et là, c'est toujours collectif, en fait. Tu vois, t'as nommé personne, enfin, peut-être à part Slavinia, mais parce que tu travailles avec elle. Et ça, je trouve ça super intéressant.
Bah, et je pense que c'est complexe, la chose, parce que c'est vrai que dans le milieu que je connais, et dans lequel j'ai fait mes recherches parce que c'était le milieu qui me fascinait, qui me correspondait le plus. Il y a toute une tradition de l'identité collective, d'une identité collective comme outil, quelque part. Ce n'est pas le fait de se cacher ou se nier derrière le collectif, mais c'est le fait de se donner plus de force avec l'identité collective. Après, c'est vrai que dans les performances action directe, du post-porn, tu sais toujours qui sont les personnes. C'est-à-dire que on savait que c'était Diana Pornoterroriste avec Idea de Strangmuros à Valencia aussi. Et quand tu vois la vidéo, tu vois aussi les noms des différentes personnes qui ont participé. Après, certaines, simplement, ils avaient un nom collectif déjà parce que ce sont des artistes qui travaillent ensemble et qui font du nom collectif, leur façon de travailler. Quasi la plupart, hein, parce que si tu penses, voilà, il y a des strong murals en première, mais aussi les premiers post-op, la Chimera Rosa, sont tous des noms collectifs qui identifient un groupe, qui performe ensemble, qui est un groupe artistique, un collectif en fait. Après, bien sûr, on connaît les noms des personnes individuelles, mais sont des personnes qui produisent un collectif avec un nom collectif. Mais ce nom collectif-là, il est censé être repéré à l'intérieur des actions directes. La question, c'est aussi que ces personnes-là qui font partie pour moi de la première vague du post-porn, celle durée, si tu veux, du 2003 ou 2013, avec un point central en Espagne, en particulier à Barcelone, ne se définissaient pas forcément jusqu'à ce moment-là artistes. C'est-à-dire qu'ils étaient des activistes qui utilisaient aussi les codes de l'art. Après, bon, il y a eu des changements, donc après chacun et chacune a pris un peu son chemin. Et c'est vrai aussi que maintenant, beaucoup de cette personne ont une pratique artistique plus, comment dire, qui va côtoyer aussi les milieux mainstream. Ça a été aussi un choix, ça a été aussi quelque chose qui était l'élément de discussion et tout. C'est assez compliqué parce que le nom individuel, l'individu artiste, est la reconnaissance est fondamentale pour pouvoir faire une carrière qui permet de vivre dans un milieu capitaliste. Donc il y a des pactes, si tu veux, à faire. Il y a des incongruences qui sont forcément à prendre en compte parce qu'on vit dans une société capitaliste et néolibérale. Après, il y a des personnes comme justement Idea de Strong Muros qui ont fait de la pratique artistique une façon de vivre et de leur vie une pratique artistique pour essayer de sortir de la façon de vivre néolibérale. Par exemple, elles, maintenant, elles ont fait un projet, mais en fait, elles vivent dans une maison à Valencia avec tout un tas de personnes non blanches qui viennent surtout du Sénégal et elles se sont mariées, en fait, pour partager les documents. Et elles ont fait de la vie collective un travail artistique. En fait, donc, elles ont fait un documentaire, etc. Et elles sont en train de chercher une maison ailleurs, d'aller sortir aussi de l'Europe, etc. Donc, moi, je pense que ce qui caractérise ces milieux-là, c'est le fait d'être, oui, des artistes, oui, des pratiques artistiques, oui, des codes de l'art, mais surtout d'être dans un milieu anarchiste transféministe. C'est ça un peu la base. Donc, la pratique artistique et la valeur artistique est fonctionnelle à véhiculer certaines valeurs, fonctionnelle à la transformation du monde, fonctionnelle à l'engagement. Watch me touch myself.
C'est un peu le cas d'Annie Sprinkle aussi. J'ai lu que tu penses que c'est une des premières performances post-porn.
Oui, oui, c'est pas vraiment moi. C'est que comme ça, il y a le récit, c'est comme ça. C'est-à-dire oui. Que les performeuses du post-porn considéraient Annie Sprinkle, surtout celle de la première vague, hein, celle 2003-2013, considéraient Annie Sprinkle un peu une sorte de maman, de maîtresse. Et elle, après, ça m'a été reporté, donc c'est une source indirecte. Elle a participé à la Muestra Marrana, je pense à la deuxième Muestra Marrana, à Barcelone, qui est le festival post-porn, qui maintenant est plutôt en Amérique latine. Et jusqu'à 2015, je crois, il était à Barcelone. Et elle avait participé à la Muestra Marrana et elle avait fait sa célèbre performance de Public Service Announcement. Et elle avait dit que c'était la première fois qu'elle le faisait après sa ménopause. Et c'était une façon, si tu veux, de faire un hommage aux performeurs, les personnes performeuses du post-porn. Et donc, quelque part, de marquer une affiliation, une lignée imaginaire, une lignée affective d'affinité, en fait, non ?
Oui, mais c'est vachement important de se construire comme ça une lignée, parce que justement, j'avais lu sur l'histoire de la performance, c'est Leslie Hill. Je ne sais pas si tu connais cette chercheuse qui propose de considérer les suffragettes comme étant justement à l'origine de la performance.
Moi, j'ai, quand j'ai fait les conférences sur les actions performatives, moi, je pars dans mes slides, il y a comme première action celle du mouvement de libération des femmes aux soldats inconnus, oui. Que je considère performance, et après je fais référence au projet. Parce que oui, pour moi, ça a tout a sûrement du sens ce qui faisait les suffragettes. Mais les suffragettes étaient bien au-delà des femmes bien qui luttaient pour les droits, étaient quand même des terroristes, quoi, non?
Oui.
Elles avaient ce côté-là assez développé. Et d'ailleurs, je viens de voir le livre qu'elles avaient fait de cuisine pour financer leur action. C'est sorti en français, la traduction en français, je l'ai vu chez Saint Boursier. Et c'est un livre de cuisine avec toutes les recettes qui ont des noms révolutionnaires. Donc, il y a toute une façon performative de gérer, d'utiliser la langue et de détourner la question de la cuisine et donc du rôle des femmes, etc. Et je l'ai trouvé très intéressant qu'ils les utilisaient pour, justement pour financer après l'achat des matériels dont ils avaient besoin pour l'action directe.
Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait tout un code couleur, tu sais, le violet pour vote, le blanc pour woman. Et il y en avait beaucoup qui avaient fait les beaux-arts, enfin qui étudiaient aux beaux-arts aussi.
Ah d'accord.
Et je suis tombée sur une image d'archives où elles ont une banderole où il y a écrit « exhibition ». Et c'est vrai qu'en anglais, tu as le double sens.
Oui, bien sûr. Voilà.
Je pense qu'effectivement, elles ont inventé l'art de la performance. Je suis assez d'accord.
Mon avantage, on va dire, de n'avoir pas fait des études d'art, chose qui me fait toujours sentir une imposteuse, est le fait que je n'ai pas un regard biaisé, quelque part, pas biaisé, mais j'ai pas un regard déjà formaté sur ce que j'ai appris. Donc, du coup, je vois des choses, je regarde des choses, j'ai des intuitions qu'après je vais vérifier. Mais là, pour moi, ça me paraît toujours une évidence pour moi, qui sont des performances. Après, je sais qu'on ne peut pas forcément les appeler comme ça, parce que j'imagine que ce n'est pas le début des études de la performance là, mais voilà, je pense que c'est tout à fait qui répondent aux critères, aux caractéristiques de la performance.
J'avais lu un texte aussi qui m'avait marqué et qui rejoint un peu nos questions. C'est Christine Barr qui a écrit un texte « Mon corps est une arme des suffragettes aux femmes ». Et en fait, qui relève que les militantes, elles ont plutôt privilégié l'écrit, les réunions de groupe ou plutôt dans des lieux dédiés, du lobbying, parce qu'elle dit qu'en fait, si les femmes, elles mettent leur corps en danger quelque part dans l'espace public et que du coup, ça ne va pas être forcément ce qu'elles vont privilégier. Et elle dit « La spectacularisation offre beaucoup d'avantages, mais elle peut conduire à des escalades non maîtrisées, des dérapages non contrôlés. » Et justement, les suffragettes, elles étaient souvent agressées sexuellement aussi, dans la rue. Et je me demandais si ça, c'est quelque chose que tu as remarqué aussi, que peut-être il y avait moins de femmes dans l'espace public qui allaient faire des performances pour ces raisons-là.
Ah non, moi, j'ai vu que des femmes faire des formes d'espace, c'est-à-dire que de soi-disant femmes ou de assignées femmes, parce que dans le, enfin, parce que je te dis, et moi, j'ai été charmée par le milieu du post-porn, pas par hasard, hein, parce que c'est très, très impuissante. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des agressions, mais que la question des agressions est quelque chose qui est tenu en compte et qui est réélaboré, géré, discuté, pris en compte, en fait, collectivement. Mais c'est pas ça qui va les arrêter, quoi. Donc, après, bon, il y a aussi beaucoup des agressions d'après ce que je sais, parce que moi, j'avais interviewé Laszlo Perlman, qui est un performeur trans anglais et qui avait fait un film qui s'appelait Fake Orgasm. Et à la première du film, il était venu à Rome et je l'avais interviewé et lui m'avait raconté que pendant justement le tournage du film, les scènes dans l'espace public, il avait reçu des microagressions, en fait, à cause de son corps trans. Mais bon, il n'avait pas pris plus mal que ça, c'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui prenait en compte comme possible, parce que, bien sûr, c'est insupportable pour certaines personnes de voir le corps d'un homme trans, donc de voir une chatte sur un corps qu'on n'attende pas la chatte, quoi. Donc, et après, de ce que je sais, il y a aussi des réactions violentes parfois. Sur des performeurs gays, par exemple, ou ceux qui mettent en scène la sexualité, parce que moi, je pense que c'est plutôt la sexualité toujours, hein, la visibilité de la sexualité ou de la phénoménologie de la sexualité qui pose beaucoup de problèmes. Après, bien sûr, le risque pour les personnes assignées, considérées femmes, c'est toujours le viol, mais ça, on le sait, c'est pas forcément quand on performe qu'on risque plus. Hein. Moi, je suis pas très fan de ce genre de discours, hein. Parce que je trouve que renvoie toujours à le risque de développer toujours une posture, même si on ne le veut pas, de victimisation et de déterminisme quasi de la condition des femmes.
Oui.
Lorsque moi, j'ai vu des personnes qui luttent pour combattre ça, et je préfère mettre en valeur et mettre en évidence ça plutôt que.
Oui, tu as raison. Et d'ailleurs, sur ces questions d'espace, tu en parles dans ton livre. Tu dis que justement, toi, tu arraches les espaces qui ne te sont pas offerts, parce qu'en tant que géographe, tu n'as pas forcément des espaces de performance. Et ça, je trouve ça vachement intéressant de voir aussi que tu t'autorises des choses qui seraient de l'ordre de la performance artistique dans des colloques de géographie sociale. Et voilà. Et justement, comment tu décides que tu vas, enfin, comment tu t'arraches ces espaces, comment tu fais
Bah, moi, c'est un peu c'est un peu long, mais bon, si je dois synthétiser, moi, je me suis j'ai commencé à utiliser les codes de l'art et la performance en particulier dans l'objectif qui était à moi. C'est-à-dire, l'objectif qui était à moi était celui de ne plus produire un savoir élitiste avec des formes de savoir considérées scientifiques et donc légitimes qui soient ennuyantes d'abord. Avec cette idée du sérieux qui passe par le fait qu'ils sont difficiles, qu'ils sont ennuyantes, qu'ils sont hyper cadrés. Et je me suis rendu compte que la conférence est tout à fait une performance. Donc, que tu t'es mis en scène et tu mets en scène ton travail. Quand j'ai commencé à étudier le post-porn, j'ai étudié la performance Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais aussi la mobiliser dans mon travail, dans mon objectif, c'est-à-dire comment produire un savoir qui n'est plus élitiste et qui n'est plus ennuyante. Transmettre des savoirs aussi sans reproduire le pouvoir, en fait, non? Et le fait que lorsque je suis une chercheuse et universitaire, alors je suis légitime, la seule figure légitime de la production du savoir. Et donc, je me suis dit, tiens, peut-être que la performance ne doit pas être forcément un objet d'étude, mais peut être aussi un code dont je vais m'approprier, ou comme je dis, moi, voler hein, à l'art, et je vais l'utiliser moi, de façon, si tu veux, respectueuse, mais irrévérencielle, c'est-à-dire sans avoir la révérence de dire « Ah non, je n'ai pas fait des études, donc je ne peux pas le faire, etc. Et » Mais d'ailleurs, je me justifie en disant « Je ne suis pas un artiste. » Donc, je suis une personne qui fait de la recherche, qui transmet des résultats de recherche, qui transmet un savoir de façon performative. Donc, à un moment donné, et en plus, je vais commencer à avoir cette envie de lire moi aussi des textes quand je voyais faire Pazlavine, etc. Et là, c'était grâce justement à les soi-disant inquiétés qui m'ont offert, qui ont partagé avec moi leur espace, donc qui m'ont permis de monter sur scène et participer à leur performance. Pour, comment dire, aider certaines choses dans les performances, comme c'était le cas avec Diana Pornoterroriste, que j'ai commencé en lisant des morceaux de texte pour arriver à lui faire une fisting vaginal pendant une performance, à partager une partie de l'espace et du temps pour que moi-même, je pouvais faire des choses que c'était moi qui j'ai choisissé, comme c'était le cas de Slavina, où j'ai commencé à faire des lecture des readings performatifs des textes qui m'étaient à cœur. Et après, j'ai eu l'occasion de participer à le collectif de la Lady Fest Arena en 2012. Et là, je me suis dit, bon, peut-être que c'est l'occasion pour essayer ma première performance. Et donc, j'ai utilisé le cadre théorique, le soi-dit framework qu'on utilise pour écrire les articles que j'étais en train de faire pour la bourse de recherche que j'avais pour étudier justement les questions de genre, l'espace, etc. Et je l'ai transformé dans une performance où j'ai utilisé que mon corps et des textes que c'était des autres personnes qui lisaient. Et donc, moi, que j'utilise que des mots et que je suis censée être légitime seulement en utilisant les mots, je me suis dit, bon, tu t'étais, et tu utilises ton corps, c'est les autres qui parlent. Et donc, j'ai fait ça, et puis je me suis dit, bon, tiens, tu peux aussi le faire dans un milieu plus qui est le tien, c'est-à-dire celui de la conférence. Et c'est là que, quand j'étais invitée à Bordeaux pour faire cette conférence sur le post-porn dans le cadre d'un séminaire, je voulais mettre en évidence comment, quand tu étudies un sujet comme le post-porn, si tu es géographe, tu as, bon, bien sûr, la plupart des gens de la communauté qui délégitiment ton travail, mais de l'autre côté, tu peux avoir, comment dire, une niche qui valorise beaucoup ton travail et donc tu risques de devenir, quelques guillemets, une star académique d'un sujet. Et j'avais appris avec mes inquiétés, justement, qu'au moment que tu es universitaire, tu es dans la mauvaise côté, parce que tu risques de produire le discours des experts, etc. Et tes inquiétés ne sont jamais là. Et donc, je me suis dit, comment faire pour parler de ça et de ces problématiques-là? Et là aussi, il y a la précarité parce que j'étais pas en poste, j'avais pas beaucoup d'argent et donc j'avais pas un ordinateur portable. Et donc j'étais dans le train et je savais pas comment ajouter un slide dans mon PowerPoint qui parlait de ça. Donc je me suis dit, mais tiens, t'as pas l'ordinateur, mais t'as ton corps. Alors, je me suis dit, j'ai appelé Diana qui était à Rome à l'époque avec Slavina et je leur ai dit, bon, écoutez, moi j'ai eu cette idée-là, à la place de faire le slide, je peux me déshabiller moi pendant que je montre vos images nues et tout, qui était le sujet du colloque. Et à la fin, j'ai conclu ma conférence performative en disant, parce que on pense que qui fait des performances doit faire des performances, lorsque qui fait des performances écrit et produit un savoir, et qui devrait produire un savoir écrit parfois fait des performances. Voilà. Et donc, c'était un peu ça, et j'ai continué avec ça, malgré tout. Les violences et les agressions que j'ai eues sur le net, que j'ai, après, quand j'ai eu le poste à la Sorbonne et que j'ai risqué mon poste parce que l'UFR dont j'étais, géographie aménagement, s'était mobilisé, la plupart des personnes, pas tout le monde, mais la plupart s'était mobilisé pour demander à la présidence de annuler mon concours et tout, parce que j'étais une personne pas à la hauteur d'un milieu comme celui de la Sorbonne. Et donc, je me suis dit que, en revanche, c'était peut-être le bon chemin. Sauf que j'avais quand même intériorisé qu'il y avait des espaces où je devais quand même faire je pouvais faire des performances et dans des autres des conférences. Et donc, je me suis dit que j'allais mélanger les deux et que j'allais plus faire la distinction des espaces. Donc, je fais des conférences performatives dans un squat. Et j'ai fait une conférence performative à l'université. Voilà. Après, j'utilise parfois moins la nudité dans des milieux de l'art que dans des milieux de la recherche. Je tiens à préciser que, malgré ce qui est dit sur Internet, je ne me suis jamais déshabillée devant mes étudiants, simplement parce que ce n'est pas nécessaire. Pour moi, me déshabiller, c'est une façon de montrer mon corps là où il est nié. Et donc, en particulier dans le milieu de la recherche, où je suis censée être qu'une tête, et qu'au moment où je pars de mes recherches, mon corps doit disparaître. Lorsque mon corps, il est toujours là, il a été là pendant mes recherches de terrain, etc. Donc, souvent, si dans le milieu de l'art, on me demande de faire une performance, déjà, ils reconnaissent que j'ai un corps et que je peux faire des choses. Donc, je n'ai pas besoin de le faire. En revanche, quand dans le milieu de l'art, on me demande de faire l'expert sur le corps, sur la performance, etc., c'est là que je suis beaucoup plus sollicitée à me dire, bon, écoute, mais j'ai un corps aussi, hein, c'est pas que vous m'appelez en tant qu'expert, donc ils font la division entre les artistes, les experts universitaires, etc. Et donc, voilà, j'essaie de brouiller un petit peu les choses et de mettre un petit peu aussi, d'utiliser ma nudité et mes méthodes, mes codes, aussi pour créer un espace de réflexion avec les personnes qui m'invitent sur leur modèle à eux, en fait, de ce qu'on attend d'une universitaire, d'une artiste, d'une... Voilà. Et ça marche.
C'est vrai parce que, par exemple, quand tu es venue à l'école d'art, le modèle utilisé de ton PowerPoint, je me rappelle, c'était des écritures comme si c'était écrit à la craie. Voilà. Il y avait un côté un petit peu kitsch. Oui. Et du coup, on se disait un peu tous, bon, nous, on met nos modèles de côté, tu vois, du truc justement de l'art, américain des années 70 où tu as tous les trucs écrits à la machine à écrire et hyper straight. Et là, c'était tout l'inverse. Et c'est vrai, tu réévalues les canons à tous les endroits, en fait.
Oui, mais là, tu sais, là, c'était aussi le fait que tu m'avais donné cet espace-là, tu m'avais invité, et je me suis dit que là, ça pouvait être, j'étais vraiment le début de faire les conférences performatives, là, c'était la première fois que je le faisais de façon aussi structurée, et donc, je me suis dit que Peut-être que c'était un milieu qui me permettait de tester l'hybridité en fait des codes, non? Donc aussi de me renforcer sur ça, parce que quand tu n'as pas vraiment des modèles, parce que des personnes, il y a des universitaires qui font des performances, mais qui divisent les deux choses, donc ils disent même pas qu'ils font des performances. Après, tu en as des autres qui sont universitaires et performeurs, performeuses, mais parce qu'ils font de leur pratique artistique un sujet de recherche, etc., parce qu'ils sont toujours dans le milieu de l'art, l'histoire de l'art, etc. Mais qui reste dans des disciplines que théoriquement n'ont rien à voir avec l'art et qui mélange les codes comme ça, moi, j'ai pas vraiment des modèles. Donc, j'ai vu des conférences performatives après, par exemple de Esther Ferrer, qu'elle parle nue, mais elle est un artiste qui fait sa performance, tout le monde va voir sa performance. Donc, c'est. Moi, mon profil est un peu bizarre sur ça. C'est justement, je pense, pour ça que j'arrive pas à me caser hein, dans ni une école d'art, ni une université. Et puis, j'utilise aussi ces codes-là à l'intérieur de l'enseignement. Et aussi de l'apprentissage, parce que j'utilise en géographie la performance comme outil de transmission et de réélaboration légitime pour les étudiants. Donc, j'ai eu par exemple des restitutions, des réélaborations et une épistémologie avec des slams produites devant à la Sorbonne avec une danseuse qui était la copine de la fislameuse et c'était un partiel d'épistémologie. Donc,
C'est génial d'arriver à ouvrir ça.
ça ouvre un espace de liberté. En réalité, tu ouvres rien qui n'est déjà ouvert. C'est-à-dire, simplement, tu sors des choses que les étudiants portent déjà en soi, mais qui pensent qu'il n'est pas légitime à l'intérieur de l'espace universitaire. Donc, quelque part, moi, je dis, tu fais exploser les murs de l'université, pas de façon néolibérale, dans le sens que créer les célèbres passerelles, etc., qui est tout un langage emprunté par les méthodes critiques, créatives, par le milieu libertaire, etc., mais qui, en réalité, ont été vraiment réappropriés par le milieu néolibéral. Donc, ce ne sont pas les passerelles entre l'université et l'entreprise, et non plus la société civile, mais c'est vraiment l'explosion. C'est-à-dire que, même pas la porosité, c'est-à-dire que c'était les murs de l'université sont trop étroites et renferment quelque part. Dès que les étudiants et étudiantes rentrent dans l'université, ils oublient leur corps, ils oublient les choses qu'ils savent faire, ils oublient leur potentialité, ils oublient les choses qu'ils ont appris. Et donc, pour moi, faire exploser les murs, ça veut dire créer des espaces de révolte et aussi des espaces de tendresse et des réconciliations avec soi-même, avec l'apprentissage, avec le binôme enseignant-enseignant d'un côté, étudiant-étudiant de l'autre côté, sans nier les rapports de pouvoir, hein, mais justement en performant les rapports de pouvoir. Parce que si tu rentres en classe et tu dis c'est moi qui fais la règle, et la règle c'est que vous ne devez pas faire une dissertation, bah, tu fais pas une dissertation. Donc tu essaies de trouver une autre chose qui soit en restitution, pas dissertation. Et bien sûr, les étudiants qui sont moins forts avec la dissertation et qui sont souvent les étudiants qui viennent de milieux défavorisés, etc. et tout, donc, comme par magie, en fait, deviennent les étudiants meilleurs. Donc, voilà.
Et du coup, comment, pour revenir à toi, comment est né Zara Bonheur? Parce que tu parlais de 2012, tes premières performances un peu, et 2013, c'est Zara Bonheur, c'est ça, c'est la
Oui,
suite logique, quoi.
Zara Bonheur, c'était une façon de dire que je voulais moi aussi un nom d'art, parce que tout le monde avait ce nom et tout. Et donc, j'avais envie moi aussi d'utiliser le terme de Zara Bonheur et qui venait du fait que j'étais déjà en France, donc J'étais interpellée par la figure de Rosa Bonheur. Après, j'aimais beaucoup le nom Zahra parce que moi, j'ai beaucoup eu des relations avec le Maroc et tout, mais je ne voulais pas utiliser un nom parce que j'avais peur de le risque d'appropriation et tout. Et c'est vrai que Zahra, ça veut dire la rose. Et Zahra, ça rappelle Zara. Zara, ça rappelle Zara en italien, qui est un terme péjoratif pour dire, bon, en français, on dirait bourrette, en fait. Et lorsque moi, j'habitais en périphérie, j'étais une bourrette, on va dire. Et donc, pour nous, l'insulte plus grande était qu'on t'appelait Zara. Et donc là, c'était pour moi une réappropriation de l'insulte et aussi qui faisait écho à Zorra en espagnol. J'étais beaucoup dans le milieu espagnol. Et au début, j'avais commencé à performer, à faire des choses avec le nom de Zara Bonheur. Après, la relation avec Slavina devient de plus en plus forte. Et puis Slavina me dit, bon, ça serait bien qu'on se trouve un nom ensemble quand on fait des ateliers ou des performances ensemble. Et donc, elle me dit, mais écoute, il y a déjà Zara Bonheur, c'est un beau nom, pourquoi on n'utilise pas ça? Et donc, on a commencé à utiliser Zara Bonheur comme un nom collectif. Et du coup, l'idée était que ce n'était pas lié qu'à nous deux, mais lorsque, à chaque fois qu'on allait dans des espaces, on impliquait les personnes qui étaient dans cet espace-là, les collectifs qui nous invitaient, etc. Donc, du coup, la performance était toujours une performance collective de Zara Bonheur, qui était, si tu veux, l'hybride, enfin, l'espace de croisement entre moi et Slavina et les autres personnes, un espace éphémère qui durait la soirée ou le temps d'un atelier, et qui porter quelque chose en fait à ce genre de thématique et de réflexion. Après, j'ai arrêté d'utiliser le nom Zara Bonheur, d'un côté parce que avec Slavina on s'est disputé en fait pour au moins une année sans quasi se parler. Puis bon, on est revenu maintenant plus qu'avant, quasi. Mais bon, ce moment-là, alors je me suis dit, bon, j'arrête Zara Bonheur parce que c'est plus collectif et donc c'est pas la peine. Et puis parce que, à différence des personnes qui utilisent les noms d'art, moi je suis pas un artiste. Et donc le problème était que j'avais l'impression de cacher, que les personnes pensaient que je voulais cacher mon rôle universitaire avec comme c'est le cas hein, de certaines comment dire personnes qui étaient dans le milieu de la performance et qui sont devenues professeurs à l'université, qui utilisent un nom à l'université et un nom dans le milieu voilà. Et moi je veux être toujours la même, donc pour moi si tu veux Rachele Borghi c'est aussi un nom performatif hein, pour trahir en fait Rachele Borghi, c'est-à-dire trahir le rôle universitaire voilà.
Et il y a vachement de porosité finalement aussi entre Rachele Borghi, la performeuse, puisque tu parles d'atelier, et puis, enfin, donc la performeuse et l'universitaire, puisque finalement, même tes performances aussi, elles accompagnent, enfin, le public est hyper, enfin, tu lui proposes d'être actif, tu lui proposes de se dénuder ou de participer à la performance de plein de manières différentes. Donc finalement, la manière de travailler à ces deux endroits, elle est un peu, elle est proche quand même dans le rapport à l'autre, quoi.
Oui, oui, pour moi, oui, mais plus que poreuse, c'est-à-dire que moi, je ne fais pas la différence, dans le sens que moi, je suis une enseignante, d'abord, et je suis une chercheuse. Une chercheuse fait ce qu'on dit la production du savoir, et l'enseignant la diffuse, si tu veux. Hein. Après, ce n'est pas vraiment comme ça, surtout que pour moi, l'enseignement est production du savoir, comme on est, etc. Mais bon, en tout cas, on a affaire avec des savoirs et avec la transmission du savoir. Et donc, pour moi, la performance, l'art, etc., c'est la transmission du savoir. Donc, moi, mon but est toujours de transmettre des savoirs. Donc, par exemple, même quand j'ai côtoyé le milieu du dessin, en fait, et du modèle vivant avec qui j'ai fait une expérience avec ce groupe de Paris, et quand c'est moi qui a posé, moi, j'ai posé en faisant le reading des guerrières de Wittig. Parce que pour moi, mon but était de transmettre ce test-là, qui est un test magnifique, et l'empowerment qui donne ce test-là, et donc de le faire à travers mon corps. C'est-à-dire que pour moi, chaque situation est une occasion pour transmettre le savoir. Donc, de là, j'ai développé un peu cette méthode, on va dire, de faire circuler les tests à travers le dessin, à partir de mon corps qui pose. Et j'ai fait à Rome, à le festival des bandes dessinées d'une librairie qui s'appelle Touba, qui s'appelle Bande des Femmes, le festival. Et là, j'ai fait dans l'espace public un atelier qui s'appelait Féministe Guerrière, avec des tests des personnes que moi je considère féministes guerrières ou d'un féminisme guerrière. Donc j'ai utilisé Rote Zora, qui était le collectif d'action directe qui était actif à Berlin dans les années 70 jusqu'à les années 80. Et qui faisait l'action directe comme les suffragettes. J'ai utilisé le procès de Louise Michel. J'ai utilisé un texte d'une internationaliste italienne qui est allée combattre à Rojava avec les guerrières de Rojava, des combattantes. J'ai utilisé, bien sûr, les guerrières. Voilà, j'ai mélangé tout un tas de tests d'un féminisme riot, si tu veux, que je fais passer à travers mon corps, à travers des poses, en impliquant toujours les personnes. Donc, c'est-à-dire que moi, je commençais une pose et puis les gens pouvaient venir à fur et à mesure que je lisais et que je faisais prendre du texte, vous pouvez venir faire ça avec moi. Et je l'utilisais aussi quand j'étais appelée par un collectif de Naples pour présenter mon livre. Et là, la présentation de mon livre, je ne fais jamais présentation du livre on va dire classique, parce que je les trouve très ennuyeuses. Donc, dès que j'ai la présentation de mon livre, c'est un reading performatif de mon livre, avec après une bibliomancie, c'est-à-dire une divination à travers le livre que je fais à travers le brouillon du dictionnaire des amantes, parce que elle est dans mon livre. Donc, mon livre, c'est aussi un corpus, on va dire, de textes, une archive de textes qui m'ont formé. Et donc, j'utilise encore là les présentations de mon livre pour diffuser, transmettre le savoir qui est à l'intérieur de mon livre à travers la pratique divinatoire. Donc, avec ce groupe-là, de ce collectif de Naples, on a fait déjà la présentation du livre dans l'espace public, dans une place, et qui était une façon d'occuper l'espace public et de critiquer la militarisation de l'espace public à Naples et la privatisation de l'espace public. On l'a fait vraiment performative comme ça et tout. Et puis, j'ai utilisé ce dispositif, on va dire, que j'ai appris par modèle vivante de pose pour créer un espace de tendresse radicale parce qu'il y avait eu un moment dur pour le collectif. Il y avait eu des agressions que certaines personnes du collectif avaient subies. Et donc, moi, j'ai décidé de créer un espace de soins à travers les textes et à travers mon corps et à travers le dessin. Donc, du coup, moi, que normalement, j'étais appelée pour faire des réflexions, pour discuter, de façon plutôt assemblée, moi, je leur proposais de se prendre un moment de soins collectifs avec ça. Et ça a très, très, très bien marché.
Et après, j'avais peut-être une dernière question, c'était par rapport à l'esthétique que tu peux utiliser. Moi, ce que j'avais vu, la seule performance que j'avais vue en tant que telle, c'était celle à la ferme du Buisson. Sinon, après, j'avais pas beaucoup d'art. Mais... Et c'est vrai qu'il y a donc la nudité, l'usage d'accessoires qui sont destinés au plaisir sexuel, il y a le latex. Et en fait, c'est vraiment une esthétique qui est absolument pas hétérosexuelle. Et du coup, qui peut être jugée comme kitsch, vulgaire, exubérante d'un côté, mais qui est aussi glamour, baroque, expansif de l'autre. Et je me disais justement, comment tu choisis ces formes, si on parle de formes. Ouais.
En réalité, c'était des objets non hétéronormatifs.
Pas forcément. Oui, t'as raison, c'est ça que... Ouais.
Et je tiens à ça parce que pour moi, c'est vraiment une... pour moi, la question n'est jamais l'hétérosexualité, mais l'hétéronormativité qui construit comme un régime. Et si tu veux, moi, j'ai le kitsch intériorisé. J'étais toujours fan du kitsch depuis que j'étais petite. Moi, je faisais la collection de boules de neige. C'est quelque chose que je revendique parce qu'en plus, moi, je viens d'un contexte populaire qui a essayé toujours de prendre les distances du kitsch, parce que quand tu viens du milieu populaire et tout, faut faire attention, parce que sinon t'es kitsch, hein, donc voilà. Après, on va dire que moi j'utilise dans la performance que tu as vue, que c'était Relationship Presidium, tous les objets que je propose sont tous des objets soit que j'utilise moi, soit des objets que tu peux pas forcément comprendre c'est quoi l'usage. Donc, j'utilise des choses qui sont pour le plaisir sexuel, mais pas forcément. Donc, si tu, la question, c'est justement de les mélanger avec des objets de toutes sortes, justement pour lever leur fonction de destination et pour que les personnes puissent inventer la fonction. Ça, je l'ai appris encore du post-porn, hein, parce que post-op, par exemple, le fait avec les choses, les matériels de la cuisine, etc. Toute cette traduction qui me plaît de renversement de l'objet et tout. Après, moi, j'ai utilisé aussi des objets qui sont des objets médicaux, mais des objets liés à mes problèmes de santé. Donc, pour moi, c'est aussi une chose de ressignifier ma maladie, une maladie qui d'ailleurs est explosée, parce que moi j'ai dit mon corps a explosé en 2016 à cause de toutes les agressions que j'avais subies à la Sorbonne et sur Internet, etc., de toute cette violence systémique. Et donc j'utilise maintenant aussi ces objets-là, d'un côté pour visibiliser que le mien est encore malade et donc que la maladie et le fait que j'ai un handicap invisible est partie aussi de tout ça, fait partie de ça. Et de l'autre côté, pour ressignifier la valeur négative faite de l'objet lié à la maladie et à la souffrance pour les faire devenir des outils de plaisir, mais surtout de plaisir de la rencontre, en fait, non? Parce que dans cette performance-là, chaque personne fait un peu ce qu'elle veut, qui est un peu mon but, c'est-à-dire de créer des espaces de rencontres et que où les choses peuvent arriver et qui peuvent arriver à un moment donné de notre vie parce qu'on se croise, après on se quitte, après, mais on laisse des traces, notre corps devient un archive et justement mon corps est un archive et c'est pour ça que j'ai fait cette, moi je l'appelle le truc parce que apparemment ça s'appelle installation, qui a été exposée à Montpellier et maintenant va être exposée à Nancy dans une expo dont la curatrice s'appelle Veronica Valentini, Ressentir tous les jours s'appelle l'expo. Ce que j'ai fait là, c'était que j'ai fait un cœur en forme du cœur organique, on va dire, qui est aussi une image que j'ai vue dans le post-porn. Et dedans ce cœur-là, j'ai fait un collage de mon archive personnelle, de mes recherches dans le milieu féministe, transféministe, post-porn des dernières 10 ans. Et je l'appelais corpus avec la U entre parenthèses politique pour montrer comment mon corps s'est formé à travers mes recherches et mes recherches se sont faites à travers mon corps. C'est-à-dire comment mon corps politique est un corps collectif et qui est le résultat de tout ça. J'ai aussi organisé un atelier où les personnes font leur corps avec leur archive, c'est-à-dire comment se sont construits comme féministes. Et puis, donc, on a fait des fanzines cet été qui vont peut-être être exposées à côté de mon cœur. Parce que l'idée de mon cœur dans l'exposition, c'est que les personnes prendront, il y a des papiers avec le cœur et tu peux amener chez toi ça et faire ton archive à toi. Et puis, nous l'envoyer. Et si l'exposition est itinérante, va être portée avec.
Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair.
Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle chaque jour.
Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Les nuits sont longues.
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit.
Le long du fleuve, mon âme sort, du haut des cimes aux profondeurs.
Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.